Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Pour comprendre notre place dans l'univers et donner un sens à notre vie, il est essentiel de connaître l'origine de toute chose.
C'est la raison pour laquelle, lors de cette nouvelle série de discussions, nous allons consacrer du temps à étudier le tout premier chapitre du livre de la Genèse. La Genèse elle-même constitue le premier livre de la Bible.
Nous allons donc écouter un extrait de Genèse chapitre 1. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de son invité Robert.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour.
Merci. Vous venez d'écouter Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Et le moment est venu d'accueillir Robert. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Lors de notre étude de Genèse 1, la dernière fois, nous nous sommes interrogés sur ce que nous pouvons y apprendre au sujet de Dieu.
C'est exact, Yann. La première chose que nous apprenons en Genèse chapitre 1 est que Dieu et l'univers sont distincts, bien séparés l'un de l'autre.
Expliquez-nous cela davantage.
Genèse 1 nous révèle que Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire l'univers entier. L'on peut alors supposer que Dieu existait déjà, bien avant la création de l'univers. Autrement dit, Dieu est l'éternel, il n'a ni commencement ni fin, tandis que l'univers qu'il a créé, lui, a un début. Or, si Dieu est éternel, s'il existait bien avant l'univers, cela prouve que Dieu et l'univers sont deux éléments bien distincts, tout à fait séparés l'un de l'autre.
Je comprends cela, mais quelle en est l'importance?
Cela est important, parce que certains, de nos jours, affirment que l'univers est Dieu, et que Dieu est l'univers. Ils disent que la nature est divine, qu'il n'existe point de séparation entre le monde visible que nous voyons et Dieu, que nos yeux ne peuvent voir. Le mot qui désigne une telle croyance est le panthéisme. Pour ces gens, Dieu et la nature sont identiques. Si nous acceptons cette pensée qui consiste à croire que la nature est divine, alors nous serons amenés à l'adorer, au lieu d'adorer le Dieu unique et vrai, qui, à lui seul, a créé l'univers et ce qu'il renferme. Le panthéisme ouvre la porte à l'idolâtrie, la fabrication et l'adoration d'objets représentant les éléments de la nature. Il ouvre également la porte à la crainte et à l'invocation de soi-disant esprits de la nature. Ainsi, le panthéisme élève la nature au même rang que Dieu. Elle permet au monde naturel de prendre la place qui seule pourtant revient à Dieu. Nous reviendrons sur ce sujet lors d'émissions futures, mais auparavant, je voudrais passer à une deuxième leçon enseignée en Genèse 1.
Et quelle est-elle?
Ce chapitre proclame sans ambiguïté aucune qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Toutefois, une croyance appelée polythéisme déclare qu'il existe de nombreux dieux. De nos jours, cette pensée est assez répandue. Or, la Bible affirme, du premier verset jusqu'au dernier, qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Une fois de plus, si Dieu le Créateur est unique, alors l'idolâtrie, sous toutes ses formes, nous conduit vers une voie trompeuse. Il n'existe aucune multitude de dieux représentant la nature. Seul Dieu a créé toutes choses. De plus, il est souverain sur toutes choses. Dieu a rappelé ces vérités à Moïse, alors que son peuple était environné de nations et tribus idolâtres, qui toutes invoquaient un nombre impressionnant de faux dieux. En libérant son peuple de la nation d'Égypte, Dieu leur a prouvé qu'aucun de ces soi-disant dieux à qui les Égyptiens vouaient un culte ne pouvait l'empêcher d'accomplir sa volonté.
Mais les sorciers égyptiens n'ont-ils cependant pas pu accomplir quelques prodiges?
Oui, ils accomplirent ces prodiges en ayant recours à des esprits mauvais. dont la puissance est insignifiante comparée à celle déployée par Dieu lui-même. De plus, il est malsain d'accorder à ces esprits le statut de Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu. Nul être, nul individu ne l'égale. Il est incomparable.
Merci Robert d'insister sur ce point. Mais qu'apprenons-nous sur le caractère de ce Dieu créateur?
Nous apprenons qu'il est puissant et bon.
Parlez-nous d'abord de sa puissance.
De nos jours, du fait des nombreuses découvertes, nous sommes toujours mieux informés sur l'univers et ce qu'il renferme. Et chaque nouvelle avancée scientifique peut diriger notre regard vers ce Dieu qui a tout créé. Car l'univers est incroyablement vaste. Il semble sans fin. Alors Dieu, forcément, est plus grand encore. Il est sans limite. L'univers est fascinant. Alors Dieu, nul doute, est plus merveilleux encore. Il est glorieux. Or, si Dieu a créé toutes ces choses, alors sa puissance dépasse notre entendement. Cependant, Genèse 1 nous informe d'un fait plus incroyable encore. Car pour créer l'univers entier, dans toute sa grandeur et sa majesté, sa complexité et sa beauté, il a suffi à Dieu de prononcer à peine quelques mots. Il est par exemple écrit dans le texte cité tout à l'heure, « Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. » Or, pour chacun des jours de la création, cette même formulation se répète. « Dieu dit, et cela fut. » Il suffit donc à Dieu de prononcer une parole pour que les éléments qu'il a décidé de créer apparaissent.
Sa puissance est vraiment incomparable. Mais vous avez aussi mentionné que ce Dieu créateur est profondément bon. Cette affirmation est fort rassurante. Mais comment pouvez-vous l'affirmer?
Parce qu'une autre formulation se répète à la fin de chaque jour de la création. En voici un exemple. Dieu vit que la lumière était bonne. En effet, toutes les fois que Dieu crée un nouvel élément, il constate à quel point il est bon. Dieu crée de bonnes choses. De plus, il les apprécie parce qu'elles sont bonnes. Cela signifie que Dieu lui-même est bon. La création est bonne. L'univers est bon. La nature est bonne. Ainsi, forcément, Dieu lui-même est bon.
Selon le récit de Genèse 1, tout ce qui fut créé est bon. Mais alors, pourquoi aujourd'hui le mal et le malheur dominent nos vies et semblent triompher sur tout ce qui est bon? Que s'est-il passé pour que nous en arrivions là? D'où vient le mal?
Voilà une question qui n'est pas abordée en Genèse 1, mais plutôt en Genèse chapitre 3.
Il serait tout de même bon d'apporter quelques éléments de réponse maintenant.
Tout à fait, Yann. Certains attribuent l'existence du mal au fait qu'il y aurait deux dieux, un bon et un méchant, qui mèneraient l'un contre l'autre une lutte constante et éternelle. Cette lutte s'exprimerait sur la terre par la présence du bien et du mal, cherchant inlassablement à triompher l'un de l'autre.
Mais Robert, vous avez affirmé qu'il n'existe qu'un seul Dieu.
En effet, il n'existe qu'un seul Dieu. Et c'est la raison pour laquelle cette croyance est fausse. Il ne peut nullement exister à la fois un Dieu bon et un Dieu méchant.
Mais la Bible affirme que Dieu a un ennemi redoutable nommé Satan ou le diable.
C'est exact, Yann. Mais Satan n'est pas un Dieu. Il est un être spirituel créé par Dieu lui-même. De ce fait, on ne peut le comparer à Dieu. Dieu est le Créateur. Satan ne l'est pas. Dieu est tout-puissant. Satan ne l'est pas. De plus, la Bible déclare que le mal engendré par Satan ne durera pas à jamais. Car un jour, Dieu soumettra cet ennemi redoutable et méchant.
Mais si tout ce que Dieu a créé est bon, pourquoi Satan, créé par Dieu lui-même, est-il si méchant? Et comment se fait-il que les hommes créés par Dieu le soient aussi?
Voilà une énigme, dont la réponse est certainement celle-ci. Dieu a créé les êtres spirituels et les hommes tout en leur donnant la liberté. Être libre est merveilleux. L'absence de liberté, quant à elle, qu'elle soit vécue sous forme d'esclavage, de tyrannie ou autre, devient destructrice. Toutefois, toute personne libre peut choisir d'exercer sa liberté, soit à de bonnes fins, soit à de mauvaises. Or, Satan a choisi de faire le mal. De même, nos premiers ancêtres, Adam et Ève, ont choisi de désobéir à Dieu. Quant à nous, nous aussi nous sommes libres de choisir. Mais sachons-le, ce sont les mauvais choix des uns et des autres, incluant les nôtres, qui introduisent le mal dans le monde et le propagent.
Merci Robert. Pouvez-vous conclure notre discussion avec un résumé des leçons à retenir?
Oui, il n'existe qu'un seul Dieu et qu'un seul Créateur. Ce Dieu unique est puissant et bon. Par conséquent, nous devons cesser d'invoquer toutes sortes d'idoles et nous tourner plutôt vers Dieu, afin de mettre notre confiance en lui et l'adorer lui seul.
Merci Robert et à la prochaine.
Merci Yann et au revoir à tous.
Nous passons maintenant à notre courte méditation biblique, durant laquelle nous allons nous pencher sur des versets du Nouveau Testament, qui développent aussi ce thème de la création.
Aujourd'hui, Étienne nous fera part de quelques réflexions à partir de versets extraits de l'Évangile de Jean, chapitre 1, que Sandra va lire.
Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité.
Il y a un instant, nous avons appris que par sa parole, Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Or, Jean développe ce thème, qui apparaît dès le début de son évangile, pour arriver à une étonnante conclusion. Tout d'abord, Jean nous présente cette parole comme une personne à part entière. La parole est Dieu lui-même. Pourtant, elle est aussi distincte de Dieu tout en demeurant avec lui. En accord avec l'auteur du livre de la Genèse, Jean déclare qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Mais il ajoute que ce Dieu unique existe au moins en deux personnes, le Père et la Parole. Ou bien le Père et le Fils. Voilà donc un mystère, une ébauche de la doctrine de la Trinité qui déclare que le Dieu unique existe en trois personnes. Nous apprenons également, comme nous l'enseigne Genèse chapitre 1, que la Parole a participé à la création de toutes choses. Plus tard, Jean ajoute que cette même Parole est devenue un homme. Car le Créateur de l'univers, la source et l'origine de toute chose, de toute vie, est venu au sein même de sa création, en revêtant la forme d'un homme. Or, cet homme fut appelé Jésus-Christ. Quel mystère insondable! Quelle merveille qui dépasse notre entendement! Mais alors, si Jésus-Christ est véritablement le Dieu Créateur, ne faut-il pas prendre au sérieux le message qu'il nous enseigne?
Merci Étienne pour ces paroles que vous nous avez partagé. Chers amis auditeurs, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.